Vendredi 4 juin 2010, Paris, gare de Lyon. Départ 9h01 à bord du Théose 05 955 à destination de Moulins. Les portes se ferment. Canal Académie a le grand plaisir de vous emmener au Centre national du costume de scène. Sur place, dans les jardins environnant le bâtiment historique du Centre national du costume de scène, première surprise, premier délice, la douceur de l'air tiède et calme qui enveloppe le visiteur. Ce bonheur de fin de matinée se prolonge avec la découverte du quartier Villard, ancien lieu de cavalerie, construit à partir de la fin du XVIIIe siècle, classé monument historique, propriété du ministère de la Culture, restauré, réaménagé par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Ces lieux couvrant 7000 mètres carrés, entièrement consacrés à la conservation, à la valorisation du patrimoine matériel des théâtres, composé de surfaces d'exposition, de réserves adaptées à la conservation des collections, mobilier de type compactus, d'un centre de documentation, d'un auditorium et de lieux conviviaux tels qu'une librairie boutique, un café brasserie, le restaurant. Ces installations et les collections qu'elles conservent sont uniques en Europe et dans le monde entier. Martine Kahn, qui est l'âme organisatrice du Centre national du costume de scène depuis sa création, explique qu'il s'agit là d'un véritable outil muséographique, scientifique, un lieu de ressources à disposition du grand public et des professionnels du spectacle, des secteurs de la recherche et de l'éducation nationale. Écoutons-la.
C'est là que s'est développée l'idée de transformer non seulement ce bâtiment, mais ce site en musée du costume de scène, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est le premier du genre. Et aussi parce que nous avons la chance d'avoir comme partenaire des grandes institutions culturelles, c'est-à-dire l'Opéra de Paris, la Comédie Française et la Bibliothèque Nationale de France, qui, pour les deux premières et qui sont des théâtres, ont des ateliers de couture extrêmement prestigieux, et prestigieux depuis Louis XIV, ça ne date pas d'hier, qui nous ont confié leur fonds muséographique. Et puis la Bibliothèque nationale de France, qui, elle, depuis des siècles, conserve les traces papier, maquettes, affiches, programmes, photos, estampes de la vie théâtrale française. C'est un exemple de décentralisation culturelle, comme on en connaît peu, puisque c'est une création en plus. Et je peux vous dire que nos collègues étrangers sont venus du monde entier, sont venus de Chine, du Japon, du Canada, de Suède, les Anglais bien sûr, mais l'Europe est à la porte, hein, sont venus pour voir ce qu'on avait fait, parce qu'ils en sont extrêmement curieux.
Martine Kahn est magnifiquement secondée aujourd'hui dans sa mission par Delphine Pinassa, directrice déléguée du Centre national du costume de scène. Delphine Pinassa se propose de vous faire découvrir, visiter ce lieu dédié à l'art, à la beauté, à la culture. Êtes-vous prêt pour la visite? Oui? Alors, nous y allons ensemble.
Le Centre national du costume de scène, comme vous l'a expliqué Martine Kahn, est dédié et entièrement dédié aux costumes de scène qui proviennent de trois institutions principales que sont l'Opéra de Paris, la Comédie Française et la Bibliothèque nationale de France avec son département art du spectacle. Parmi ces 9000 costumes, il y en a certains qui ont une histoire tout à fait unique et particulière parce qu'ils ont été portés par des artistes d'exception que sont les divas. Donc ce sujet a été choisi par Martine Kahn et moi-même. Il a un lien très fort aussi avec Maurizio Galante, je ne sais pas qui sonne. Et on a choisi ce thème pour différentes raisons. Évidemment, pour d'abord valoriser nos collections, le CNCS a pour mission première de conserver ces costumes, de les étudier et aussi de les valoriser donc à travers un programme d'exposition temporaire. Puisque le textile est trop fragile pour être montré de manière permanente, nous faisons une permanence d'exposition temporaire. Donc avec une rotation d'exposition tous les 5-6 mois, avec des thèmes très différents, très variés. Parfois des thèmes, des monographies, celles que nous avons pu faire sur Christian Lacroix, sur Rudolf Nureyev. Des thèmes littéraires ou qui touchent un peu tous les costumes. Les Mille et une nuits, Bêtes de scène qui était l'exposition d'ouverture. Et donc les divas. Divan était un autre angle d'approche pour valoriser ces costumes auprès d'un public qui n'est pas forcément très féru en fait, de ce que c'est que le spectacle vivant ici à Moulins. Ce centre est vraiment l'exemple d'une décentralisation culturelle puisqu'il conserve des costumes d'institutions parisiennes, de grandes institutions françaises, mais la région n'est pas non plus dotée de festivals ou de théâtres qui diffusent le spectacle d'art vivant. Donc on a aussi tout un travail par rapport à notre public pour leur apprendre et leur faire connaître cet art du spectacle. L'exposition a aussi donc pour lien, comme je vous le disais, le travail de Maurizio Galante, que je vous présente si vous ne l'avez pas tous rencontré. Donc, il est le directeur artistique de cette exposition, également couturier, designer, italien installé en France depuis 11 ans, qui avait fait cette exposition aussi sur le thème des divas en 2006, l'année de l'ouverture du centre. On m'avait vivement recommandé d'aller voir cette exposition, que je n'ai pas pu faire parce qu'on était en ouverture ici. Mais c'est vrai que le point de départ était un petit peu cette exposition. Maurizio, tu veux dire quelques mots?
Alors la première chose, c'était un plaisir de travailler ici, à Moulins, avec Delphine, avec toute l'équipe du musée. C'est en très très bonne qualité et surtout en qualité humaine, très très haute. J'aime beaucoup. Deuxième chose, l'exposition que j'ai faite à Paris, c'était une exposition vraiment en sorte de départ plutôt sur les divas italiennes et surtout du cinéma. Alors là, on est dans un autre domaine, on est dans le théâtre, la danse et l'opéra. Je voulais dire que aussi c'était un grand plaisir avec Delphine d'aller chercher des pièces que vous allez voir dans l'expo. On a fait des voyages en Italie, on a fait des voyages aussi en France. Et c'est vraiment un grand plaisir de trouver dans des dépôts ou dans des collectionneurs des pièces qui n'ont jamais été montrées même en France ou des choses qu'ils se rencontrent pour la première fois après le tournage ou après un spectacle ici pour l'occasion de cette exposition. Vous allez voir, l'exposition elle est partagée en deux parties. En partie intime, qu'on appelait la loge, là où la diva elle passe beaucoup de temps, et en autre partie, que c'est la vie publique. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce concept de la dualité, quoi je trouve qu'une diva, elle a toujours une sorte de deux vies parallèles, que des fois, elles se croisent, elles ne se croisent pas, et c'est le public qui décide si elles se croisent ou elles ne se croisent pas. Alors c'est vraiment quelqu'un qui, à la fin, elle est dans les mains du public.
Ce terme diva, on s'aperçoit que ça peut évoquer des personnalités tout à fait différentes selon le public. Il y a presque autant de divas que de public. Pour prendre un cas tout à fait extrême, mon fils qui a 11 ans, qui est passionné de catch en ce moment parce que j'ai l'impression que c'est la grande mode, eh bien, les divas, c'est le terme des femmes catcheuses. Voilà. Donc quand je lui ai annoncé qu'on faisait une exposition sur les divas, lui, il était absolument ravi parce que pour une fois, il y avait un sujet qui le concernait. Et on était vraiment à l'opposé, mais voilà. Donc on a présenté des définitions de dictionnaires historiques du 19e siècle, mais aussi des dictionnaires plus récents sur ce que c'est qu'une diva. Bon, pour vous résumer, donc la diva est le terme qui a été donné aux cantatrices au début du 19e siècle, enfin vraiment à l'époque en fait du bel canto, et faisait suite en fait à la vie des castrats ou des divos qui sortaient de scène à ce moment-là, puisque vous savez que ces chanteurs avaient été adulés par toutes les cours européennes au 18e siècle, laissant peu de place justement à l'émergence de la femme sur scène, et que bon, les mentalités changeant, en fait, le divo a disparu et la femme a pu prendre sa place sur scène et donc devenir cette grande interprète. Et donc le terme qui veut dire au départ déesse a été attribué à ces grandes cantatrices. Petit à petit, il s'est bien sûr élargi dans ses appellations. À la fin du 19e, on peut dire qu'il s'est francisé et Sarah Bernhardt a été définie comme étant la divine. Il s'est aussi donc étendu au domaine du théâtre, bien que très vite ensuite l'appellation de vedette est arrivée. Je vous précise peut-être pour ceux qui ne savent pas que vedette, ça veut dire en fait c'est la taille du caractère hein, sur une affiche. Hein, au départ, c'est ce terme-là. Et ensuite, on a donné le terme de vedette donc à la personne qui est en vedette. Puis le terme de star est arrivé avec le cinéma italien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que celle qui pourrait prétendre au titre de diva le refute assez facilement. peut-être parce qu'elles ont une connotation négative en fait. Et là aussi, il y a une petite définition justement sur les mauvais côtés, on pourrait dire, de la diva, la caprice de la diva, de jouer la diva. Voilà, donc l'entrée de l'exposition se fait un peu par ces différents aspects pour montrer que nous, dans l'exposition qui présente environ 200 objets, costumes ou accessoires, nous avons pu présenter les plus grandes divas, mais celles pour lesquelles nous avions des objets, évidemment. Bien qu'on ait fait beaucoup de voyages, des costumes nous viennent d'Italie, de Suisse, des États-Unis. On n'a pas non plus pu représenter tout le monde. Il y a l'architecture du centre, vous allez voir, de toute manière, qui est contrainte, évidemment, pour nous, avec ses vitrines, présente 8 grandes divas. Et ensuite, on a une sorte de théâtre final où on a pu mettre toutes les autres.
Nous devons à regret quitter Edith Piaf car la visite continue aux côtés de Delphine Pinaza, directrice déléguée du Centre national du costume de scène.
Dans l'architecture de ce centre, qui a été réaménagé par Jean-Michel Villemotte, pour présenter, là on est au premier étage, et tout le premier étage est dédié aux espaces d'exposition temporaire, nous avons 8 salles vitrines, et pour lesquelles nous avons identifié 8 grandes divas, qui sont toutes très connues, très connues du grand public, et bien sûr du public aussi spécifique, mais toutes très connues du grand public, et chacune présente un certain nombre de costumes pour ces divas. La première, celle dont tout le monde s'agglutine à la vitre, est Sarah Bernhardt. Donc, comme je vous le disais, Sarah Bernhardt, grande tragédienne du 19e siècle, certainement la plus grande actrice du 19e siècle, surnommée la Divine, qui a une carrière, que ce soit en France ou à l'étranger, tout à fait impressionnante, qui partait à l'étranger avec des malles, elle partait avec 80 malles remplies de costumes, et la presse à l'étranger se faisait l'écho de la somptuosité de tous ces costumes. Artiste qui avait un corps qui était un peu à l'opposé des canons de l'époque, mais qui a réussi à en jouer, puisqu'elle avait des bras très fins, elle était plutôt longiligne et très fine, avec un bout très long et des bras très fins, ce qui lui a permis aussi de jouer des rôles de travestie, dont elle a beaucoup, beaucoup abusé. Une artiste qui était très interventionniste dans sa façon d'être, son art de paraître. Cette exposition aussi permet justement d'étudier un peu ce domaine justement de comment est-ce que l'artiste paraît sur scène. Tout le monde est soucieux de son paraître, ou la plupart des gens sont soucieux de leur paraître, mais les artistes le sont aussi. Il y a d'ailleurs un texte justement dans le catalogue par rapport à l'art de paraître. Et là, il y a 5 costumes présentés de Sarah Bernhardt. Bien sûr, l'époque fait qu'il est difficile d'avoir des traces plus importantes et des costumes de cette époque. Globalement, dans le spectacle, il existe peu de costumes avant la fin du 19e siècle. Et ceci principalement parce qu'il y a eu des incendies régulièrement qui ont pu brûler les stocks de costumes. Pour Sarah Bernhardt, nous avons réussi à en réunir 5, dont 2 qui sont présentés allongés parce que trop fragiles pour être présentés sur des mannequins. Voilà, il y a une petite intervention sur la conservation, si vous voulez, c'est que le costume, quand il est trop fragilisé, quand il est trop structuré, celui-ci, le deuxième qui est au centre, qui serait pour la pièce de théâtre Froufrou, est entièrement brodé de perles. C'est un travail remarquable, un travail qui est proche de la haute couture. Et justement, Sarah Bernhardt est une des divas qui a travaillé avec la haute couture, qui s'est fait habiller par des couturiers, que ce soit Worth, Doucet ou d'autres. Et elle avait un tel goût et une telle mise en scène dans ses costumes que parfois il est même difficile de savoir s'il s'agit de costumes à elle proprement ou des costumes de scène. Tout à fait à droite, vous avez un costume, le premier costume qui est sur la droite, qui est allongé, est un costume qui nous a été prêté par le musée Galliera, qui n'est pas identifié, qui est pour une pièce de théâtre de 1895, qui est aussi très fragile, donc présenté comme ça à plat. Il a une couleur dans ses pierres, où il faut regarder le rouge des pierreries. C'est vraiment un rouge flamboyant, très pur, et qui donne vraiment un scintillement aux lumières de la scène. le premier costume qui est suspendu, enfin qui est sur ce mannequin, il a une histoire un petit peu particulière. Maurizio, si tu veux en parler.
Les manteaux que vous avez en dentelle, en fourrure, ça appartient aujourd'hui à Valentina Cortese, qui est une actrice italienne qui a joué même avec Truffaut et il avait nominé Charles les Oscars avec La Nuit Américaine. Il a acheté ça dans les années 70 à Paris, chez une dame qui à l'époque s'occupait de faire des recherches pour Visconti, pour Piero Tosi. Et à l'intérieur, il est magnifique, c'est de la fourrure complètement brodée. Et à l'extérieur, c'est comme de la dentelle avec un point Flandre, complètement fait à la main.
Citons deux autres costumes, celui de la reine de Ruy Blas, qui a été prêté par la Comédie française, costume aussi assez fragilisé, mais qu'on a pu quand même présenter sur un mannequin. On n'a pas pu tout à fait donner la forme qu'elle aurait dû avoir avec un corset, parce qu'on n'a pas voulu trop intervenir. On l'a présenté avec beaucoup de précautions, parce que les perles sont quand même très très fragiles. Et enfin, une tunique, une armure de Jeanne d'Arc, prêtée là par le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France.
L'un des attraits, des charmes de cette exposition consiste à avoir réussi à intégrer à proximité des vitrines des écrans vidéo dont la disposition permet à l'œil de naviguer entre le costume exposé et le costume vivant, ainsi de toute éternité par la magie de l'image, sur les corps de ces divas. Cet ensemble conjugué, grâce à ces extraits de films diffusés en partenariat avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, prend ainsi une autre dimension qu'un simple vestiaire de diva. Ce sont des artistes, des femmes éclatantes dans leur art, qui prennent ainsi place dans ces robes majestueuses, surprenantes, étourdissantes.
On présente soit des images fixes, soit des images animées, des archives de ces artistes qui portent au moins un costume que vous pouvez voir dans les vitrines, qui le porte en scène et qui fait sa prestation en scène. Alors pour nous, c'est une énorme chance d'avoir accès en fait à ces archives. Et franchement, je remercie énormément l'INA et le partenariat que nous avons avec l'INA, qui nous a mis à disposition et qui a beaucoup travaillé aussi avec nous sur cette exposition. Merci, mille merci. Jusqu'à hier soir, j'avais encore Joël, je crois, à 10h du soir pour des autorisations. Donc pour nous, c'est la première fois et je pense que c'est très utile pour le visiteur de pouvoir effectivement voir l'artiste en scène qui interprète. Alors pour Sarah Bernard, on l'aura à partir de lundi. Donc vous êtes tous invités à revenir. En attendant, et aussi sur les autres vidéos, vous verrez que nous avons aussi mis en valeur ces costumes à travers des détails. Il ne faut pas que ça empêche en fait de regarder le costume, mais ça permet quand même de rentrer à l'intérieur ou de montrer l'intérieur des costumes, la construction de ces costumes qui est aussi très élaborée et qui est tout aussi belle en fait que la construction extérieure. Et le manteau, on l'a laissé ouvert justement parce qu'il a l'intérieur est presque aussi beau que l'extérieur. Et on hésitait beaucoup à le mettre à plat, ou etc. Bon, voilà, on l'a laissé ouvert et vous pouvez aussi le voir en photo.
La voix italienne, doucement timbrée du scénographe couturier Maurizio Galante, nous rappelle que le vêtement de la diva, eh bien, c'est comme une deuxième peau pour l'interprète. Donc, Maurizio Galante a pris le parti d'exposer les costumes tels quels, avec les petites traces, vous savez, d'imperfections, témoins de la vie et des corps qui les ont habités, le temps d'une représentation ou le temps d'un film.
La vie qu'elle a vécue, la robe, avec tous les traces que l'actrice ou le personnage il a laissé sous la robe. La robe, les moments qu'il a portés, il représente tout à fait notre histoire et il rentre dans un mécanisme et dans une image complètement différente. Alors, on a voulu carrément, avec les catalogues, avec les vidéos, de vous donner cette idée entre les étiquettes, les choses signées à la main, les petites traces à l'intérieur, tous les types de tâches qui sont à l'intérieur et à l'extérieur.
La vitrine Régine Crespin, donc grande soprano française, qui a une carrière sur scène plutôt dans les années 50, 60 et 70. En fait, au décès de Régine Crespin, les légataires nous ont donc proposé, nous ont fait don du vestiaire de Régine Crespin. Ce vestiaire comprend des costumes de scène, beaucoup de bijoux, aussi des bijoux personnels qu'elle portait sur scène, mais aussi des vêtements personnels qu'elle avait et qu'on nous a donnés. On en verra quelques-uns justement dans les autres salles. Là, vous avez un peu un mélange de costumes qui proviennent du fond Régine Crespin, mais aussi des costumes de l'Opéra de Paris, puisqu'elle a chanté plusieurs rôles à l'Opéra de Paris. On On a mis un peu en évidence et en valeur ce costume de Tannhauser, d'Elisabeth dans Tannhauser. Celui-ci est justement en fait, le costume qui s'était fait copier. Régine Crespin, comme beaucoup d'artistes, avait aussi justement son vestiaire. Vous savez qu'au 19e, enfin jusqu'au 19e, en fait, les artistes avaient leur propre costume et se produisaient dans les théâtres en province ou à l'étranger avec leur propre costume. Tout ça a changé plutôt au 20e siècle, quand il y a une sorte d'unité scénographique et qu'il n'était plus question que les artistes arrivent sur scène avec des costumes qui n'avaient rien à voir d'un point de vue artistique avec la production. Mais à l'occasion de certains de ses spectacles, Régine, qui aimait tout particulièrement ses costumes, les a fait refaire à l'identique ou plus ou moins à l'identique. Là, vous avez donc ce magnifique drapé qu'elle a porté pour Tannhauser à l'Opéra de Paris en 1963, costume qui a été conçu par Léonore Fini. Et Régine Crespin s'était fait refaire ce costume qu'elle portait aussi pour d'autres prestations. Au milieu, vous avez deux costumes, Ariane Anaxos, voilà où elle est en train de chanter dans ce costume. Ariane Anaxos, donc, qui a été créé au Festival d'Aix-en-Provence, dessiné par Pierre Clayette, grand costumier aussi de la scène. En fait, si vous regardez bien, il y a quelques variantes, puisque là, c'est le costume original de la scène, et elle s'est fait donc copier ce costume, et elle l'avait gardé pour faire d'autres interprétations. Idem pour le costume en avant, qui a une forme 18e, là aussi de Pierre Clayette, qui a adapté ses costumes d'un chevalier à la rose qu'elle avait chanté. Pour ces costumes, on a aussi les maquettes, puisque dans le fond et dans le don de Régine Crespin aussi, il y avait deux tableaux de Clayette qui la représentent en fait dans ces costumes. Un peu plus loin, vous avez sur l'estrade un costume de bal masqué dans le rôle d'Amélia, dessiné par Georges Vakevitch. Didon dans Les Troyens en 1961. Et derrière, c'est un deuxième costume du Chevalier à la Rose qui appartient à Régine Crespin. Alors, quand vous regardez cette vitrine, on voit quand même une unité, bien sûr du corps avant tout, hein, parce que l'artiste et Régine, justement, dans ses mémoires, annonce que pour elle, le costume est très important parce qu'au moment où elle arrive sur scène, avant de chanter, elle est regardée. Et que justement, par rapport à ça, il faut qu'elle se sente bien, il faut que l'artiste se sente bien parce qu'elle se sent tout le moins à l'aise ou mise en valeur pour interpréter un rôle qu'elle doit interpréter. Il y a des formes assez... C'est un peu toute une époque, effectivement, artistique, plutôt des formes 18e. Vous regardez les décorations, les engagements, les décolletés sont quasiment tous les mêmes et donc une certaine idée de la féminité de cette époque et pour cet artiste. Donc sur la télévision, vous avez cet extrait de Ariane Anaxos qu'elle chante à Aix-en-Provence. Il y a aussi une petite interview d'elle dans la loge du Palais Garnier au moment où elle chante justement Tannhauser et on voit le costume qui est disposé comme ça dans sa loge. Tout ça, ce sont des petits éléments aussi pour donner aux spectateurs une entrée dans cette intimité, comme on disait tout à l'heure, dans la loge.
Oui, c'est très intéressant aussi l'idée que là, vous voyez, comme le disait Delphine, qu'elle existe en uniformité. Alors là, la diva elle-même, il exprime tout le temps, il parle tout le temps à la même façon, dans le sens qu'il a un personnage, même s'il interprète un autre personnage, il a un personnage elle-même. Voilà, alors c'est très intéressant, oui.
Comme un uniforme, et on peut supposer que, voilà, une fois qu'on a trouvé les formes qui nous valorisent et dans lesquelles on se sent à l'aise, et évidemment, on va les reproduire. Et c'est pour ça que c'est à la fois le phénomène justement de la mode est à contraire de tout ça. Mais là, on voit bien qu'il y a une unité, sur plusieurs années d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes de la même époque, une unité dans sa structure, en fait, dans la structure de ses costumes, où il y a beaucoup de trompe-l'œil, puisque évidemment, toutes ces broderies chaînettes sont l'illusion de réelles broderies. Et la traîne de cette robe à panier avec ces applications un peu flammes comme ça sur les côtés est tout à fait étonnant, mais produit un effet, quand on le voit bien éclairé, ce qui n'est pas le cas là parce qu'on ne peut pas trop forcer les éclairages pour des raisons de conservation, les flammes sautent aux yeux et les couleurs vraiment jaillissent de ce costume.
Nous marquons une pause dans cette visite pour vous signaler que le Centre national du costume de scène est une création emblématique de la décentralisation culturelle, en ce sens qu'elle est initiée par l'État, développée en région par la ville de Moulins, le département de l'Allier et la région de l'Auvergne. Le CNCS, donc le Centre national du costume de scène, est devenu Musée de France en novembre 2009. Le fonds actuel du Centre national du costume de scène est d'environ 9000 costumes. Ce fonds réunit les plus belles collections du monde grâce au dépôt de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, de la Comédie française, de l'Opéra national de Paris, de collections propres au centre, de dons particuliers d'artistes, de compagnies de théâtre, de costumiers des quatre coins du monde. Et c'est ainsi que la Rudolf Nureyev Foundation a fait don en 2008 d'une très importante collection de documents, objets, mobilier, œuvres d'art, costumes ayant appartenu à cette icône de la danse que fut Rudolf Nureyev. attention, la visite reprend maintenant, et cette fois aux côtés d'une autre icône, d'une autre diva, la Callas.
La diva assoluta, évidemment. Maria Callas est présentée dans deux vitrines. Celle-ci qui présente des costumes de ses trois rôles principaux. Sur la gauche, plutôt des costumes de Norma, Tosca au milieu et Traviata, l'extrémité droite. Maria Callas, c'est effectivement l'interprétation, l'incarnation de la diva. Elle a remis un peu à l'honneur justement ce personnage qui avait un peu tendance à avoir disparu au début du XXe siècle. Que ce soit sa vie privée, sa vie sur scène et les passions qu'elle a pu déchaîner, elle a vraiment été identifiée et pour tous et dans la mémoire de tout le monde comme la diva la plus connue au monde. C'est la chanteuse la plus connue au monde et ses costumes ici présentés sont un bel hommage en fait à cette personne. Maurizio, tout à l'heure en introduction, vous disiez qu'on avait pu faire des voyages. Cette exposition est effectivement le fruit de différents travaux. On a étudié, on a analysé la presse, les catalogues de vente pour voir un peu toute l'histoire de ces costumes. Mais on a aussi on a pu rencontrer ou parler tout de moins avec certaines des divas et aller rencontrer Piero Tosi, qui est donc le costumier qui a énormément travaillé avec Visconti et qui a habillé Callas, notamment pour l'opéra La Somnambule, que nous ne présentons pas ici, mais qui nous a parlé de Callas, qui nous a même mimé Callas sur scène en traversant la salle à sa manière. Enfin, bon, c'est incroyable, monsieur de 83 ans, très charmant, qui a répondu à notre demande d'interview de manière très simple, qui, je crois, ne voulait pas nous quitter, même à la fin. Malheureusement, il ne prend absolument pas l'avion, donc il est hors de question pour lui de venir ici. Mais c'est un maître pour certains. Je sais que Christian Lacroix m'a d'ailleurs dit que c'est un peu grâce à Piero Tosi, entre autres, qu'il a pu faire, enfin, qu'il s'est lancé dans cette carrière.
Christian Lacroix est le président d'honneur du Centre national du costume de scène. Comme Delphine Pinaza vient d'évoquer ce grand couturier, nous allons lui poser la question : que représente pour vous la diva ?
Ce mot qui signifie quand même déesse, pendant très longtemps a été un mot très laudatif et qui peut-être prenait aujourd'hui un éclairage un tout petit peu plus péjoratif. Quand on dit diva, ce n'est pas forcément gentil aujourd'hui, ce sont des caprices. Et je dois dire que j'ai peut-être côtoyé pas mal de divas et qu'elles n'ont sans doute d'autant plus de vraies divas qu'elles n'avaient pas de caprices. Ou en tout cas, celles que j'ai rencontrées qui avaient des caprices, pour moi, n'étaient pas des divas. Je pense que la diva, c'est ce que nous racontait Delphine à propos de la Callas, quand elle dit si le costumier aime, j'aime aussi et je ferai ce qu'il faut. Quoi. Pourtant, Dieu sait si on a dit que la Callas, c'est quelqu'un de difficile. Moi, parmi celles présentées aujourd'hui, c'est Renée Fleming, mais elle n'a pas du tout une réputation de... Elle n'est pas difficile, au contraire.
Elles sont des femmes capricieuses.
Non, elles ont envie d'être leur personnage, avant tout. Et pour moi, diva, c'est quelque chose qui nous permet à nous d'échapper au réel, au quotidien. Ce sont des gens qui ont... C'est plus que du talent, c'est le don. D'abord, le don de la voix, un don technique. Alors ça, ce n'est pas du domaine du rêve, ce n'est pas du domaine du fantasme. Hein. C'est quelque chose...
Le domaine du travail.
Gymnastique, du travail, concret.
De l'organisation.
Voilà, alors qu'on soit une grande danseuse, là, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a aucun costume de danseuse, mais quelqu'un que j'ai pu habiller comme Sylvie Guillem, c'est quelqu'un qui peut avoir, qui a une réputation de diva. Quand on dit « elle est difficile », mais elle est exigeante, ce n'est pas difficile, elle est exigeante. Mais
il y a la dimension.
Voilà, et quand elle commence à esquisser un geste, quand elle fait un pas, ben on lui pardonnera tout.
Parce que l'art est là, l'art est vivant,
et il nous aide à traverser des périodes, encore plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, de difficultés économiques. Et dans ces périodes-là, on a d'autant plus besoin d'avoir cette grâce, d'avoir cette magie, qui encore une fois n'est pas du domaine du virtuel. Comme vous le disiez très bien, c'est vraiment quelque chose de travaillé, quelque chose qui existe, qui est là.
Vous regardez les costumes, ils ont tous une ligne magnifique, très élégante. Maria Callas, évidemment, vous savez qu'elle a eu cette transformation physique, notamment au moment où elle a rencontré Visconti, qui a été un peu son mentor en termes de jeu de scène et d'interprétation. Elle n'avait pas du tout ce corps-là, puisqu'elle avait un corps bien plus large, bien plus opulent, qu'elle a énormément maigri en peu de temps, et que le travail et la collaboration qu'elle a pu avoir avec Visconti a été un changement radical, en fait, dans son jeu de scène et dans sa façon de paraître. Vous verrez peut-être, si vous revenez, les maquettes, en fait, de ses costumes qui sont diffusées sur la télé. Norma, en fait, a été donnée à l'Opéra de Paris en 1964. Paris a été une des dernières capitales à inviter Callas à venir chanter. Elle est venue en 1958 pour un gala, pour chanter des airs de différents extraits et aussi de chanter le deuxième acte de Tosca. Et elle est ensuite revenue en 1964 et en 1965 pour chanter Norma et Tosca. Donc ces costumes reviennent de l'Opéra de Paris et d'une collection privée. Et Marcel Escoffier, donc ils étaient mis en scène par Franco Zeffirelli. Marcel Escoffier, qui était le costumier de Norma, avait au départ conçu des maquettes à crinoline, enfin des robes à crinoline, plutôt un peu dans l'esprit de la Traviata. Et Maria Callas n'a pas voulu en fait de ces crinolines. Elle a voulu retrouver la ligne antique, la ligne grecque, et avec la fluidité des matériaux qui sont très très beaux, des matériaux très nobles, la taille très fine. Maria Callas était aussi une personne élancée. Voilà, il y a vraiment une beauté du costume qui est apparente ici.
Je voulais parler de ces deux costumes-là. Qu'on a repéré dans un voyage à Rome, chez une maison de couture, oui, chez un atelier. Et il avait seulement une étiquette à l'intérieur, tous les deux, notée Maria Callas. Alors on a fait des recherches, on a montré ça à Franco Zeffirelli et on a découvert que c'est des costumes pour une Traviata des années 50 où Franco Zeffirelli était à l'époque le costumier et ça a été joué à Londres. Voilà. Même la personne qui avait les costumes, il ne savait pas. Alors, on a fait aussi un travail comme ça.
Juste parce que je ne vais pas rester trop longtemps, mais la construction de ces costumes qui paraissent très simples, hein, parce qu'on voit que c'est des drapés, on a l'impression que ça tombe tout seul comme ça, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont très élaborés dans leur structure. Tous à l'intérieur ont des petits soufflets de tulle qui permettent une élasticité du costume, évidemment pour sa respiration. On les a cachés parce que c'était assez disgracieux sinon de les montrer, mais ils ont aussi tous au niveau des épaules des grandes parties en fait en tulle chair. Évidemment, de loin, ça ne se voyait pas, il y avait le maquillage. Et ces parties de tulle en fait, retiennent le décolleté, évidemment de loin, permet d'avoir un décolleté plus important et les deux capes sont très très lourdes et donc tombent en arrière et que par rapport à ça, il y avait ces rajouts qui ont été faits sur ces costumes. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Piero Tosi nous a dit aussi que c'était un très bon petit soldat, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout difficile. Vous savez qu'elle ne voyait pas très clair, hein, parce qu'elle était myope, que donc elle ne regardait pas et elle disait au costumier « si ça vous va, moi ça me va ». Et dès qu'elle enfilait un costume, elle l'habitait intégralement et elle pouvait aller sur scène telle une diva. Le costume rose, celui du milieu, est donc un des costumes de Norma. Voilà, moi, je suis arrivée à l'Opéra de Paris au début des années 90. Et ce costume, voilà, une spécificité, c'est qu'il avait été présenté dans d'autres expositions. Et il n'avait pas été suffisamment protégé, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a découpé un morceau de tissu dans ce costume. Voilà, le fétichisme de la diva. Et voilà, donc il lui manque une partie qu'on ne voit pas, un carré. Bon, il est suffisamment volumineux pour qu'on puisse le présenter. Mais voilà, maintenant, ils sont sous vitrine. Pour un tout autre projet, parce qu'il s'agit d'un film, du film de Médée, tourné par Pasolini en 1969, avec trois objets, pardon, un costume et trois bijoux qui sont présentés dans cette vitrine. Là, c'est vraiment en fait, le fruit justement d'une rencontre aussi de Maurizio Galante, puisque quand on est parti en Italie pour rencontrer Piero Tosi, pour aller peut-être choisir des costumes dans l'atelier Tirelli, que vous connaissez peut-être tous, qui est un atelier de fabrication de costumes très connu. L'Italie garde des stocks de costumes très importants, ce que nous n'avons plus, nous, en France. On avait pu voir effectivement un costume de Médée, mais ils n'étaient pas sûrs de pouvoir nous le prêter. Et par contre, le même jour, on a trouvé des pistes, avec tout ça, avec un coup de téléphone, une trace en fait de ces bijoux qui ont été fabriqués par l'atelier qui s'appelait Lembo, qui aujourd'hui a été racheté par une maison qui s'appelle Jewel House. Et donc, ces costumes qui ont servi dans le film de Médée, qui sont encore aujourd'hui en utilisation parce qu'ils peuvent être loués pour d'autres tournages. Le costume qui est présenté ici est un des costumes qui a été donné par l'atelier Tirelli au Palazzo Pitti à Florence. Donc cet atelier qui existe depuis très longtemps, qui a fabriqué énormément de costumes, Senso, entre autres Senso, Ludwig et bien d'autres, a donné une partie des costumes au Palazzo Pitti pour qu'ils soient conservés. Maurizio, avec ses connaissances en Italie, a réussi en fait à obtenir le prêt de ce costume. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il sort d'Italie. Il avait été présenté déjà dans une exposition Maria Callas à l'Hôtel de Ville il y a quelques années. Mais pour nous, c'était quand même vraiment extraordinaire de pouvoir avoir ce costume. Il était encore plus intéressant que celui que Tirelli nous présentait.
Ce n'est pas la première fois qu'elle sort. Par contre, c'est la première fois que le costume rencontre les bijoux. Dans le sens qu'après le tournage, les bijoux ils sont partis dans le sens. Les bijoux qu'on a ici, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'ils ont été rajoutés après par Tirelli. Par contre, les bijoux que vous avez à votre droite, ils sont les originaux des films. Alors, à l'époque, on a fait ce voyage en Italie. J'ai appelé la directrice de la galerie del costume de Palazzo Pitti, où j'ai aussi des vêtements à l'intérieur. Et là, c'est commencé un processus assez long et très complexe. Le costume, si je dis bien Delphine, il a voyagé en caisse spéciale avec deux personnes qui n'ont jamais quitté le costume. La directrice des musées, elle est venue avec le costume. On a ouvert que les caisses ici sur place. On a quand même un extra de l'ouverture de la caisse. Voilà.
Et de ce soin justement de l'emballage, du transport et de toute la sécurité qu'il peut y avoir autour de ces œuvres. Mais une fois de plus, pour le grand public qui ne sont pas forcément conscients de ce genre de problème, nous on a eu évidemment un problème, c'est que la caisse était trop grande et ne passait pas dans l'ascenseur, mais ça c'est inévitable, il en faut toujours une. Donc ils ont été obligés de porter la caisse et elle est arrivée, on l'a déballée, elle était très très bien emballée. Et effectivement, il y a eu un constat d'état, là aussi c'est, le constat d'état ça parle à tous les gens du musée, mais ça ne parle pas forcément à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on compare exactement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Sur ce costume, vous avez des éléments 18e, puisque Piero Tosi nous a expliqué que Pasolini voulait quelque chose, un mélange en fait, de tradition et de costume du bassin méditerranéen. Il ne voulait pas quelque chose de trop marqué dans un esprit grec, dans un esprit un peu crétois, ou il voulait quelque chose de très diversifié qui évoque un peu un monde à la fois archaïque et à la fois du bassin méditerranéen. Ils nous ont expliqué, enfin Piero Tosi nous a expliqué que il est constitué en fait avec une base de tarlatane, de toile à beurre. Tout ça a été teint, trempé dans des bains. Ils ont fait un pliage spécial. Ils ont plié les costumes, ils l'ont mis dans un bain de colle. Ils les ont gardés comme ça toute la nuit. Et finalement, donc, ça a donné cet immense costume un peu fantastique. Et à ce moment-là, simplement, ils se sont dit « Mais Maria Callas ne va jamais accepter de porter ce costume qui est fait de, pas de serpillères, j'exagère, mais quand même de choses très simples. » Et finalement, bien sûr, elle n'a opposé aucun problème. Et une fois de plus, il a dit une fois qu'elle l'avait enfilé, elle l'habitait intégralement et c'était absolument magnifique. Donc si vous vous approchez aussi, vous verrez les petites perles bleues dont la technique…
Pas de verre, bah surtout des mourines. Ils sont des cylindres en verre. Après, vous avez aussi des éléments, comme le disait Delphine, 18e, des différentes broderies. Et les bijoux que vous avez à droite, ils sont vachement dans les concepts plus archaïques. C'est pour ça que la directrice qui nous a amené les costumes, elle a dit que pour elle, les trois bijoux, surtout les têtes des béliers et des lions, ils ont été rajoutés après, ils ne sont pas les originaux. Bah, de toute façon, les bijoux que vous avez à votre droite, c'est tout à fait les originaux.
Les bijoux, les emblèmes en fait, à droite sont beaucoup plus archaïques, sont presque incas comme style de bijoux, hein, alors que ceux-ci relèvent plus du monde occidental.
Costume dans les films des rites. Il signifie que Médée, avec ce costume, il a fait la partie principale des films. Bah, d'avant, vous avez une forme qui en italien s'appelle pazienza, qui était après réutilisée dans les vêtements ecclésiastiques. Et c'est tout à fait la forme archaïque de ça. Bah, c'est le personnage de Médée à l'intérieur des films. C'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose de naturel, en même temps de rigide. C'est vraiment les deux opposés qu'elles vivent ensemble. Médée, c'est un personnage très complexe qui raconte, peut-être comme tous nous, qu'on a fait vraiment des choses complètement différentes, qu'elles vivent toutes dans la même boîte. Et ça, c'est tout à fait Médée.
Le tournage s'est fait dans différents lieux, en Italie, en Turquie aussi. Vous regarderez les extraits, elle est tout le temps sous une ombrelle pour se protéger du soleil. Tous les techniciens sont torse nus, elle devait vraiment avoir très très chaud. Il y a certaines légendes, on peut le lire dans certains livres, où on dit que justement le poids des costumes faisait que Maria Callas s'est évanouie plusieurs fois. Bon, ce qui nous a été contredit de la part de Piero Tosi, il y a toujours un mythe autour de ces divas, et ça n'en est un. Bah oui, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est pas vraiment comme un fantôme. Donc, il y a ce voile qui est devant, qui est assez impressionnant, qui était parfois porté devant, parfois porté derrière. Elle a ses grandes coiffures et puis elle a surtout cette accumulation devant de bijoux et de broderies qui donnent en fait toute la richesse du costume qui sinon est très simple, qui sont rattachés à la coiffure. Voilà. tout le costume est noir, avec quelques éléments métalliques dans les bijoux, dans les broderies et des pierres bleues et dorées.
Du coup, avec ce costume, à peu près 3 semaines, je pense, Delphine. Oui. C'est une très bonne énergie. Non, il est arrivé ici, après on l'a mis tout de suite dans la vitrine. Quoi. Il faisait fermer la vitrine. Voilà. Mais il a une très bonne énergie.
Isabella Gianni, June Anderson, Maribel, Teresa Bergonza, Sarah Bernard, Maria Callas, Régine Crespin, Montserrat Caballé, Nathalie Dessay, Rémi Fleming, Angela Giorgio, Jessie Norman, Christa Ludwig, Adelina Patti, Jen Rode, Cécile Sorel, Kirite Kanawa, Shirley Verrett, Edwige Feuer, Edith Piaf, Zizi Jeanmaire, Hortense Schneider.
Donc là, vous avez un costume de Hortense Schneider, qui est aussi un des plus anciens costumes en fait, de cette exposition, puisque c'est le costume de la Grande Duchesse de Gerolstein, qui date de 1867. Donc simplement, Hortense Schneider était donc la muse du compositeur Offenbach. Elle a créé la plupart de ses rôles. Ce costume est conservé au château de Compiègne. Il n'y a que la veste et la broche qui sont d'origine. La jupe est une jupe de présentation que le musée a fabriquée pour compléter en fait, ce costume. Hortense Schneider était très connue des cours des têtes impériales. Elle était même surnommée le passage des princes. Je n'irai pas plus loin dans ce genre d'informations. Simplement, par rapport au costume, pour le spectacle de la Grande Duchesse, elle avait voulu porter aussi l'ordre de Gerolstein, mais il se trouve qu'en fait, la censure impériale a refusé qu'elle porte cet ordre et donc a demandé qu'elle le supprime. Elle était furieuse, elle n'a pas voulu jouer. Le spectacle a été sauvé parce qu'en fait, le chef d'orchestre a lancé son air et donc elle a bien été obligée de venir chanter sur scène. Mais pour se venger, elle s'est fait immortaliser dans un portrait peint par Pérignon avec cet ordre de l'ordre de Gerolstein que vous pouvez voir donc sur, entre autres sur le catalogue. Alors, Lucienne Bréval, enfin tout au moins quelques éléments qu'elle a portés, puisque là, il s'agit en fait d'armure, de casque, d'un bouclier et d'une lance pour un personnage évidemment de Valkyrie. Là aussi, il y a de nombreuses divas qui ont interprété tous ces rôles de Valkyrie, qui avaient toutes en fait les mêmes accessoires. Ces cottes de mailles, vous voyez qu'elles sont ajustées avec la taille étranglée selon la mode de l'époque. Il y a plusieurs photos, entre autres aussi dans le catalogue, vous pourrez voir justement, elles sont 5, 6, 7 sur scène et elles portent toutes ce même costume. Qui donc appartient à la bibliothèque musée de l'Opéra, qui a été donnée par Lucienne Bréval elle-même, tant elle tenait à ce costume et qu'elle avait voulu qu'il soit préservé dans les collections. La vitrine Montserrat Caballé, soprano espagnole, qui est vraiment l'incarnation de la diva, je dirais même presque de la Castafiore, sans vouloir être négative. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, avec 3 costumes, 2 costumes de Turandot, Turandot mythique à l'Opéra de Paris, qui a été créé en 1968. C'était Birgit Nilsson qui avait fait l'interprétation à la création. Montserrat Caballé l'a repris en 1981. Cette production a été dessinée par Jacques Dupont, grand dessinateur pour la scène. Et il avait voulu, alors là, il s'agit vraiment de l'interprétation d'un personnage de légende. Et donc, il avait voulu travailler en fait sur une Chine imaginaire. Imaginaire. Et donc, il y a 2 éléments qui sont importants par rapport à ces costumes. C'est qu'ils ont été construits sur le principe du test de Rorschach. Vous savez, ce test où vous lancez de l'encre, vous pliez en fait en 2 la feuille et quand vous l'ouvrez, vous avez la symétrie au niveau des taches. Et donc, si vous regardez, vous trouvez évidemment cette symétrie. Là encore, si vous regardez la maquette qui doit être sur la télévision ou dans le catalogue, c'est tout à fait lisible. Autre matériau aussi, donc pour réaliser en fait ces tâches, c'est un travail énorme d'application, de découpage et d'application en fait sur ces 2 costumes. Les cols sont aussi réalisés dans un matériau assez insolite qui s'appelle le grob, qui était une matière qui était utilisée beaucoup d'abord dans le spectacle pour le décor, mais aussi dans les costumes. Vous avez aussi à côté les 2 magnifiques coiffures qui avaient été créées par Hector Pasquale. Hector Pasquale était un costumier d'origine argentine, non, je ne sais plus, Amérique du Sud en tous les cas, argentin. Est arrivé en France. Il a ensuite beaucoup travaillé avec la Maison Saint-Laurent. Donc vous avez ces coiffures aériennes avec cette petite boule qui bougeait dans l'air et les ongles que nous avons présentés, parce que là encore, quand vous verrez sur la télévision comment elle était sur scène, elle avait ses ongles en fait au bout de ses doigts. Cette immense cape qu'elle ne portait pas tout le temps, parce que là encore, vous le verrez sur scène, en fait, il était posé au sol et c'était les princesses qui venaient l'habiller de cette cape. Elle mesure plus de 13 mètres de long. Alors Montserrat Caballé, c'est une des personnes avec qui j'ai pu m'entretenir grâce au problème du volcan puisqu'en fait, ça faisait un moment que j'essayais d'être en lien avec elle et qu'on me répondait oui, peut-être demain, réessayer après-demain. Et finalement, sa fille m'a dit, écoutez, on part en voiture à Munich pour un concert, puisqu'on ne peut pas prendre l'avion à cause du problème du volcan. Donc, vous pourrez lui parler à ce moment-là. Donc, effectivement, nous avons pu converser dans la voiture où elle m'a dit, elle se souvenait très, très bien de ce costume. D'ailleurs, elle m'a même dit qu'elle avait voulu l'acheter et que l'opéra n'avait pas voulu lui vendre, mais qu'elle avait reporté à un autre moment, à une autre occasion, quand elle est partie chanter en Chine à Pékin à l'occasion d'une manifestation et qu'elle est arrivée dans la salle du peuple qui contenait plus de 15 000 personnes. Et quand elle est arrivée avec ce costume, il y a eu un murmure d'exclamation quand elle est arrivée, tellement ce costume était beau. Pour elle, c'est un très très beau souvenir. Elle a eu l'occasion d'avoir d'autres costumes de l'Opéra de Paris parce qu'elle avait aussi chanté un Ariane et Naxos que là l'Opéra Comique lui a donné. Et c'est un costume que l'on peut voir sur des vidéos, entre autres sur YouTube, puisqu'elle l'avait encore reporté quand elle a chanté avec Freddie Mercury Barcelona. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Donc elle aime beaucoup les costumes, elle m'a même dit qu'elle avait une très grande collection chez elle et que peut-être un jour elle ouvrirait un musée du costume. Donc je l'ai bien sûr invitée à venir ici pour voir déjà ce que nous faisons. Sur la gauche, vous avez un costume de Semiramide qui vient du théâtre de San Carlo à Naples, que grâce à Maurizio Galante. On a mis un extrait aussi de Semiramide où elle ne porte pas le même costume, mais c'est un costume très, très joli. Elle est très consciente évidemment de sa morphologie. Elle dit que les costumiers savent bien qu'elle ne peut pas tout porter et que par rapport à ça, ils savent travailler, travailler pour valoriser son corps. C'est pareil, ce n'est pas non plus une artiste qui a un jeu de scène très important. Il y a aussi un extrait parce qu'elle m'a dit que son costume préféré avait été celui qu'elle avait porté pour Normand en 1974 à Orange. Et elle était en costume et surtout avec des voiles partout. Et ce soir-là, il y avait énormément de vent. Et le vent était presque un élément en fait, du spectacle. Et vous verrez, effectivement, ils ont tous leurs voiles en mouvement et c'est magnifique. June Anderson, grande soprano américaine, grande aussi en taille. Voilà, on présente ici plusieurs costumes, dont les trois là sur la gauche, le blanc, le rouge et le gris, sont des costumes de Robert le Diable. C'était la première prestation de June Anderson à l'Opéra de Paris en 1985. Ces costumes ont été créés par la costumière Florica Maluriani, qui n'a pas fait de maquette. Vous savez que le premier travail, en fait, généralement d'un costumier, c'est déjà de faire un dessin, une maquette préparatoire, et qui ensuite donne lieu à un travail dans les ateliers, un patron, et puis etc. etc. Donc là, ça ne s'est pas fait de cette manière. Il n'y a pas eu de maquette. Et en fait, les costumes ont été construits directement sur elle. Julie Anderson, Maurizio la connaît très bien, il vous en parlera. Donc j'ai pu lui parler aussi avec elle. Elle avait également un très bon souvenir de ses costumes. Et elle disait qu'elle avait passé pour cette production plus de temps dans les ateliers qu'en répétition, ce qui avait été un peu exceptionnel pour elle, mais un bon souvenir. Ils sont évidemment assez volumineux. Le blanc est totalement délirant, surtout qu'elle a très, très peu porté. Là aussi, il y a quelques extraits. Vous verrez qu'en fait, l'image, d'ailleurs, on ne la voit pas très bien, parce que là aussi, ce sont les archives de la télévision d'une certaine époque et qu'on voit combien on a changé par rapport à l'image aujourd'hui. Elle porte ce costume juste pour la fin quand il la conduit pour le mariage. C'est-à-dire qu'elle doit rester 80 secondes en scène avec ce costume qui est d'un travail très élaboré, enfin un mélange de quelque chose de très élaboré parce que le corsage est entièrement perlé avec un espèce de froufrou et d'accumulation comme ça de dentelles et de parties métalliques dans les ailes. Et le reste des costumes sont presque plus simples parce qu'ils font appel au collage. Cette costumière aimait bien en fait travailler la colle. Évidemment, tous ces costumes sont faits pour être vus de loin, hein, sous des éclairages spécifiques. Là, on les voit de beaucoup plus près. Mais voilà, ils ne sont pas forcément très lourd, enfin, à part le blanc, le gris étant lamé synthétique, donc il n'est pas forcément très lourd. Évidemment, à chaque fois qu'on le manipule, il perd quelques feuilles de lierre. Et le rouge, lui, par contre, est en daim. Et lui, devait être beaucoup plus, en tous les cas, contraignant sur scène, parce que je pense qu'il devait avoir assez chaud. Je ne pense pas révéler de secret en disant que June Anderson me disait qu'elle était très grande et surtout elle avait un très haut buste. Et que voilà, donc on retrouve bien la coupe en fait de sa morphologie parce qu'elle ne supportait pas, et parfois elle a eu des couturiers, des costumiers qui ne respectaient pas justement cette contrainte, qui lui mettaient une taille très très haute et qui lui coupaient complètement le souffle pour chanter. Elle n'avait pas forcément toujours des très bons souvenirs avec les costumiers parce qu'elle disait qu'ils avaient généralement toujours une idée préconçue et qu'ils ne tenaient pas forcément compte justement des contraintes. Et là aussi, c'est un des éléments évidemment de cette exposition, c'est de savoir comment est-ce que l'artiste peut être bien sur scène, comment est-ce que lui s'aide du costume, il a besoin d'être aidé par le costume pour interpréter un rôle. Il me disait elle-même, si je joue un rôle de princesse, je dois me sentir princesse. Si je joue le rôle d'une folle, je dois être folle. Et donc je dois avoir le costume correspondant, sinon je ne peux pas interpréter ce personnage. Costume jaune.
C'est un costume de Roberto Capucci pour un capriccio de Strauss. Il vient d'Al San Carlo di Napoli. Il était conçu da Roberto Capucci. Il a à peu près une cinquantaine de différents dégradés entre l'or et le jaune. Voilà, on avait contacté Roberto Capucci pour prendre des choses de lui, mais malheureusement, il n'avait pas de choses. Heureusement, on a trouvé ce costume à l'Opéra del San Carlo di Napoli. Voilà. Les autres deux pièces, c'est des choses à moi que je fais pour June, pour la présentation d'haute couture dans le mois de janvier. La robe nuage, c'est à peu près 48 robes, un à l'intérieur de l'autre. C'est un dégradé de beige, gris perle et blanc. Et il a à peu près 150 mètres de tissu. Et la deuxième, c'est une robe d'application de rhodoïde. Il avait un étole, comme vous voyez sous la, après vous voyez sous la vidéo, un étole que c'était une étoile filante, un satin d'organza blanc. On a décidé d'enlever et donner l'importance à cet vêtement comme ça. Voilà. Oui, moi j'ai créé les deux choses blanches qui sont dans la scène. Et June, il a chanté 5 arias différentes dans les présentations d'haute couture. Et entre une aria et l'autre, je suis monté sous scène et j'ai changé la robe. Voilà.
Cette diva et superbe femme soprano américaine, June Anderson, qui a été très souvent habillée par Maurizio Galante, Maurizio Galante que vous avez pu écouter tout au long de cette émission, June Anderson, remarquablement applaudie dans le rôle de Lucia de la mer mort de Donizetti, chanta les airs de la Reine de la Nuit dans le film de Miloš Forman, Amadeus, a dit de Maurizio Galante. « Ma rencontre, dit June Anderson avec Maurizio Galante, a été une très belle aventure. C'est un sculpteur de la matière. Sur scène, il est impératif que le costume aide à l'interprétation. Pour moi, l'important est de savoir que je vais pouvoir me cacher derrière quelque chose, que ce soit un personnage ou un costume. » Moulin et son Centre national du costume de scène vous attendent, vous auditeurs de Canal Academy, jusqu'en décembre prochain avec cette exposition Vestiaire de Diva qui, grâce aux lieux, aux vitrines, aux écrans vidéo, donne donc corps et âme aux superbes parures qui vous entoureront, dont l'ensemble prend une autre dimension qu'un tout simple vestiaire de diva.
This perfect dream,
sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me estás
aquí. I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guiding inspiration.